Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission mensuelle des échos du Grand Saint-Barthélemy. Donc échos que vous pouvez réécouter chaque dernier jeudi de chaque mois sur Radio Galère au 88.4 FM ainsi qu'en DAB+. Radio Galère, notre fenêtre ouverte sur le monde, accessible via le site www.radiogalère.org. Et vous pouvez également nous suivre en podcast. Il est possible de nous contacter pendant l'émission au 07 49 53 87 44. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous avons à l'animation Issa Manessour, Jean-Marc Ega et moi-même, Lily Ega. Sans oublier notre fidèle technicien et ami Sidi de Radio Galère. Nous avons une petite pensée émue, oui, ça ?
En fait, le numéro de téléphone, c'est 07 53 26 49 53 26 38.
Est-ce que tu peux répéter, parce que pour ceux qui ont noté ce que j'ai dit.
07 49 53 26 38. Donc, je ne sais pas pourquoi Jean-Marc a mis le numéro 87 44.
Je pense qu'il a fait une confusion entre le
exactement,
fixe et le numéro mobile.
Exactement.
Donc, le bon numéro, c'est celui qui ça vient de citer. Donc,
07 49 53 26 38. Oui.
Nous avons également une pensée pour notre amie Karima Berich, qui habituellement est à nos côtés, et elle fait toute la partie mémoire, mais plutôt du Grand Saint-Barthélemy. On n'a pas la prétention de dire quel est votre niveau de connaissance en histoire, mesdames. Et nous avons une petite pensée pour elle, et nous espérons la retrouver bientôt. Donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui est « Histoire de femmes à la rencontre des historiennes co-directrices de Marseillaise Le Dictionnaire, mesdames Catherine Marin-Fouquet et Hélène Échinard ». Mais avant de vous passer la parole, nous allons faire une petite pause musicale avec un morceau intitulé « Debout les femmes » de Brigitte.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Servir, humilier les femmes, acheter, vendu, violer, dans tout.
les échos du Grand Saint-Barthélemy sur le 88.4 et en DAB+. Aujourd'hui est une journée particulière pour nous, car nous marquons résolument la journée internationale des droits des femmes. On a un petit peu de retard, mais on n'a qu'un seul créneau, et c'est celui-ci pour le mois de mars, celui du 27 mars. Donc comme je le disais, nous avons le plaisir de recevoir les co-auteurs et co-directrices des dictionnaires des Marseillaises, puisqu'avec la dernière édition, Marseillaise le dictionnaire, nous en sommes déjà à la troisième. Mais avant de dérouler, je tiens à m'excuser parce qu'il y a avec nous aujourd'hui Nicolas Dupuis de l'Homme, qui est directeur de l'espace culturel Busserine. J'ai omis de le présenter en prologue tout à l'heure.
Eh bien, bienvenue Nicolas, et bienvenue Catherine, bienvenue Hélène. Donc nous vous accueillons aujourd'hui et on aimerait bien savoir comment s'est déroulée votre rencontre, mesdames.
Eh bien, d'abord, merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Puisque l'origine de ce dictionnaire, Marseillaise le dictionnaire,
un petit peu.
Il faut le rapprocher. Merci, merci Hélène. Moi je suis Catherine donc, et Hélène vous dit bonjour.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
Depuis 1989, en réalité, c'est un groupe d'historiennes qui s'est rapproché, qui s'est formé pour étudier l'histoire des femmes de Marseille. On a longtemps tourné autour de l'idée dont on a d'abord fait des colloques universitaires pour essayer de rassembler toutes les connaissances sur le sujet, parce que Marseille est quand même une ville qui date de longtemps. Et puis, petit à petit, on a rassemblé des éléments et l'idée s'est imposée de faire un dictionnaire. Le premier est sorti à l'occasion des 2600 ans de Marseille, et il s'appelait Marseillaise, 26 siècles d'histoire. Ce livre nous a donné un élan supplémentaire. L'association Les Femmes et la Ville, qui organisait un peu tout à ce moment-là, a continué de travailler, d'organiser des colloques sur le travail des femmes. Hélène, vous en étiez aussi. Rappelez-moi quelques colloques significatifs.
Bon, nous avons fait plusieurs colloques. Le summum de notre activité, ça a été entre les deux dictionnaires 2005, parce que c'était le 60e anniversaire du premier vote des Françaises, comme ça va l'être maintenant le 29 avril, le 80e anniversaire. Et donc, à ce moment-là, nous avons fait un colloque international. Ce n'était pas le premier, mais c'est un colloque important. Nous avons réalisé deux expositions qui ont été exposées sur le cours d'Astiendorf, où la mairie avait organisé en grand, au début mai, pas juste le 29 avril, des stands avec toutes les associations et de tous bords d'ailleurs, et où nous étions privilégiés. On était dans le stand de la mairie avec deux expos, et en plus nous faisions ce colloque et avec plusieurs communications. Et nous avons eu ensuite le plaisir d'avoir ces actes publiés dans la revue Marseille, la revue culturelle de la ville, et ce n'était pas la première fois qu'elle avait consacré un numéro spécial aux femmes, puisqu'elle l'avait fait déjà auparavant, en 99.
Oui, vous faites allusion, Hélène, au rôle des associations de Marseille. Il serait juste ici de rendre hommage à une association qui depuis a disparu, qui s'appelait le CODIF, Centre d'orientation, de documentation et d'information des femmes, qui était un espace de service rendu aux femmes pour leur faire connaître leurs droits et leurs possibilités, et qui avait aussi un centre de documentation et une revue. Et c'est avant la formation des Femmes et la Ville, donc en 1988, qu'un premier numéro intitulé « Les Marseillaises » était sorti, et qui avait été un petit peu l'amorce de nos recherches ultérieures, parce que ça avait suscité un grand intérêt, et plusieurs de nos collaborateurs et collaboratrices, parce que nous ne sommes pas entre femmes pour travailler, nous avons aussi un grand nombre de collaborateurs du sexe masculin, se sont retrouvés là et ont commencé donc à labourer le sujet, qui, il faut le bien le dire, est un sujet infini, et qui de plus est mobile avec le temps. C'est-à-dire que on a eu un principe en commençant, c'est de ne traiter que de femmes dont la vie est achevée. Alors évidemment, en 99, on avait un certain nombre de femmes ayant joué un rôle important dans la cité ou qu'il était bon de connaître, mais plus le temps passait, plus le rôle des femmes augmentait et plus donc nous avions envie d'intégrer au dictionnaire ces femmes qui représentaient les nouvelles possibilités d'action et d'épanouissement pour les femmes. D'où est venue donc la deuxième édition qui s'est appelée cette fois le Dictionnaire des Marseillaises et qui est paru en 2012, donc 13 ans après le premier.
Voilà, qui était donc présent au moment des fêtes de 2013. Nous n'avions pas le label, alors que nous avions le label 26e centenaire, parce qu'il est peut-être sorti juste un peu tôt, avant le 13 janvier 2013. C'est sorti en octobre 2012, mais au moins il était là quand les Marseillais sont penchés sur la culture de la ville. Et bien sûr, les femmes ont joué aussi, pas seulement, un rôle culturel important, bien sûr, et elles sont bien sûr représentées dans nos colonnes des index.
Et justement, comme par hasard, 12 ans après, on a fait la troisième édition. Alors il faut souligner que si la première édition avait été publiée par un éditeur aixois qui s'appelait Edisud, il avait changé d'orientation entre-temps. Et nous ne l'intéressions plus, heureusement. Un jeune historien avait fondé des éditions à Marseille, les éditions Gossen, et il nous a accueillis, et pour la seconde édition, et pour la troisième, qu'il a faite, donc, qu'il a accepté de faire avec nous, et la dernière qui s'appelle donc Marseillaise, le dictionnaire. Augmentation des rôles. Je vous passe la parole, Hélène.
Oui, alors cette nouvelle édition est entièrement refondue et augmentée. Il y a à peu près une centaine de nouveautés, dont certaines sont entièrement réécrites parce qu'on a fait des découvertes. On a redonné des identités aussi et nous avons eu quelques anciens collaborateurs et des nouveaux aussi qui se sont proposés. Donc, nous avons en tout, avec les quatre directrices, nous avons en nous comptant nous-mêmes 122 personnes qui ont travaillé, puisque nous avons 118 collaborateurs. Bien sûr, on a compté aussi les anciens qui, quelquefois, ne sont plus de ce monde aussi, mais dont le travail est toujours remarquable et mérite d'être conservé. Donc, nous n'avons enlevé aucune de ces notices. Nous en avons ajouté. Nous avons procédé par accumulation et par réécriture, je dis pas rewriting, pour certaines. Et donc, elles sont en colonne encore de plus en plus serrées. Et j'ajoute quand même, si on fait un peu quelques statistiques, que le dictionnaire comporte bien plus que ces 550, parce que d'abord, il y a des collectives, comme des poissonnières, et donc là, c'est tout au long des siècles. Mais il y a aussi des personnes qui sont citées dans deux cas. Soit elles n'ont pas de notice parce qu'elles sont encore en vie, mais en parlant par exemple des témoins des déportés des camps, on a cité en introduction le nom d'une personne qui est encore vivante et qui témoigne, à laquelle nous souhaitons longue vie, Denise Toros-Barter par exemple, mais également nous avons nommé des personnes pour lesquelles nous avions des informations soit insuffisantes pour faire une notice, mais elles avaient travaillé aux côtés de celles que nous avions sélectionnées, et donc il fallait quand même les nommer, ou encore nous les nommons parce qu'elles sont à un moment donné en contact avec certaines de nos notices, de nos personnalités des notices. Par exemple, il y a deux fois Brigitte Bardot. Donc, elle n'a rien à voir avec Marseille, mais elle a travaillé aux côtés d'actrices, par exemple, et on ne voit pas pourquoi on ne mettrait pas qu'elles se sont bien entendues, et on a cité Brigitte Bardot par deux reprises. Également, Colette, également la romancière Colette, qui est citée à une ou deux reprises.
Oui, parce que dans notre dictionnaire, il n'y a pas que des Marseillaises, si je vous aurais dit, si vous me pardonnez cette expression, pur jus. Il y a des personnes qui ont joué un rôle important à Marseille, mais qui n'y sont pas nées. Ben, sur les quatre membres du comité de rédaction, il n'y en a qu'une qui est marseillaise de naissance. Elle est à ma droite, c'est Hélène. Les autres, ben, on est venus avec nos parents. Moi, c'était en 53, une garnison de mon père, toc, et j'y suis restée, j'ai rencontré mon mari, etc. Bon, maintenant, je suis à la tête d'une petite tribu marseillaise, mais à l'origine, je n'étais pas. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus pour le travail, donc on a quand même fait l'essentiel de notre vie à Marseille. Dans ce cas, ça se comprend. Mais on a aussi, dès le début, pris un parti, celui d'accueillir dans ce dictionnaire celles qu'on appelle des passantes, qui ne sont pas forcément restées longtemps à Marseille, mais qui ont laissé une trace importante, soit dans leurs œuvres, soit par leur action. Alors, je vais donner deux exemples un peu opposés. Il y a, par exemple, une notice sur Simone de Beauvoir. Ah, marseillaise, celle-là, mais non, pas du tout. Mais Simone de Beauvoir a fait sa première année d'enseignement au lycée Montgrand de Marseille. Et dans ses œuvres, elle parle de Marseille, elle parle de ses expériences à Marseille, et elle y est revenue souvent avec plaisir. Une autre passante, évidemment, parmi les résistantes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, par exemple, une qui n'était pas dans notre premier dictionnaire, alors que pourtant, elle était décédée au moment de sa sortie, mais on continue de travailler, de chercher, de voir. Et puis, il y a l'immense Internet qui s'est ouvert et qui permet aussi des regroupements, de retrouver des noms. On a parmi nous un remarquable généalogiste qui, en passant, est le fils d'Hélène, qui a retrouvé des dates de naissance grâce à des états civils anciens qui ont été numérisés et sur lesquels il a pu trouver des choses que personne ne connaissait avant. Donc vous voyez, c'est un dictionnaire, ça a l'air d'un gros morceau, mais c'est vivant, c'est diablement vivant. Et encore, je vous dirais, c'est pas assez vivant. C'est pas assez vivant parce que moi j'ai des remords tous les jours. Il y a des gens que j'ai ratés. J'ai oublié, je connaissais leur existence et pourquoi je les ai pas mis. Et puis, il y en a que j'ai découvert aussi récemment. Par exemple, il y a deux dames qui sont décédées depuis. Bon, le temps passant, j'avais entendu parler d'elles. Je trouvais remarquable ce qu'elles faisaient. Elles habitaient les cités des Flamands. C'est Zeira Maaskri et Ada Berebou.
Oui.
Elles auraient parfaitement dû figurer dans ce dictionnaire. Si j'avais su qu'elles étaient décédées, on les aurait cherchées.
Oui.
Mais malheureusement, et ça c'est peut-être un défaut de notre... Bon, on ne pénètre pas tous les milieux.
Oui.
C'est un dictionnaire des Marseillaises, mais c'est un échantillonnage.
Hein, oui, c'est, Catherine.
On le regrette.
Oui. Bonjour dans Catherine. Les grands esprits...
Jean-Marc, je suis trop bavarde. Oui,
non, mais les grands esprits se rencontrent parce que cela faisait partie des propositions de Maméga, de vous parler de ces personnes-là qui ont eu un travail important sur les quartiers des Flamands et que c'était les deux dames aussi que l'on souhaitait vous proposer. Mais là, bon, ça sera peut-être remis, nous ne savons pas trop quand.
Je vous propose de faire une petite pause musicale.
Hein, bon, ainsi dit, merci.
Avec un morceau d'Anne Sylvestre. Une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie. Des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd. Votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux.
Nous sommes en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère au 88.4. Toujours avec nos invités, mesdames Échinard et Maren Fouquet et Nicolas, notre cher Nicolas. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Parce qu'on est rentré de suite dans le vif du sujet. Donc on l'a bien compris, vous êtes toutes deux historiennes, marseillaises par d'adoption ou de naissance, peu importe. Mais pourquoi cette question? Ben, des femmes, justement, l'histoire des femmes. La réponse est peut-être évidente, mais sait-on jamais? Certains auditeurs ne savent pas.
J'ai juste une parenthèse. Je tenais aussi à remercier nos partenaires d'Espace Culturel Busserine qui a organisé une présentation de votre dernier ouvrage le 7 mars dans leurs locaux, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, merci, Nicolas.
Alors, votre question, c'est pourquoi l'histoire des femmes?
Bon, l'histoire des Marseillaises.
L'histoire des Marseillaises, notre intérêt pour l'histoire des Marseillaises découle de notre intérêt pour l'histoire des femmes que nous avions déjà entamé avant. Quand nous avons fait nos études universitaires, à peu près en même temps, Hélène est un peu plus jeune que moi, mais pas tellement, on ne nous a jamais parlé de l'histoire des femmes à l'université. Mais jamais en tant que telle. C'était, j'ai bénéficié, moi, quand j'ai fait mes études, de cours d'un très grand historien qui nous faisait des cours sur la Révolution française, Maurice Agulon. C'était remarquable, c'était bien fait. Les femmes, il n'y en avait pas. Juste un petit moment, on parlait des tricoteuses de guillotine, ces femmes. Il ne mettait pas trop la pédale là-dessus, quand même, lui. Il était quand même très, très respectueux, très modéré. Et les recherches n'avaient pas encore avancé à l'époque. Les débuts de l'histoire des femmes sont concomitants des débuts de la prise de conscience, de la revendication des droits des femmes. Les années 60 aux États-Unis, suivies des années 60-70 à Marseille, on a eu la chance dans notre région d'avoir à l'Université de Provence tout un groupe de historiennes, sociologues, ethnologue, il y avait aussi dans le tas, si j'ose dire, quelques hommes qui s'y intéressaient aussi et qui ont commencé à mener des réflexions à ce sujet. Dès 1971, ils tenaient des réunions entre eux pour discuter. Et ils ont formalisé cela en 1973 en créant le Centre d'études féminines de l'Université de Provence, CEFUP, qui a été un des premiers centres en France. Une larme de ce réseau, c'était Yvonne Knibiller, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques semaines, à l'âge respectable de 102 ans, et qui fait partie du noyau de création de l'AFV à Marseille. Alors au début, pour ne pas effaroucher ces messieurs, ils ont dit qu'ils allaient commencer à travailler sur l'histoire des femmes, de la famille, des enfants. N'effarouchons pas. Et de fait, en travaillant sur l'histoire des femmes, Yvonne Knibiller est venue me chercher plus tard, pas longtemps après, 76-78, pour me demander de travailler avec elle sur l'histoire des mères. On a fait l'histoire des mères du Moyen-Âge à nos jours, et puis on a fait quelques autres choses après aussi. Et autour de ce noyau, bon, vous connaissez peut-être le nom d'une... j'oserais dire la papesse de l'histoire des femmes en France, celle qu'on cite toujours, qui est Michèle Perrault, qui est parisienne. Michèle Perrault ne manque jamais de citer Yvonne Knibiller parmi les pionnières. Il y avait aussi un autre centre à Toulouse, donc vous voyez, ça c'est intéressant aussi. Le Midi, qu'on dit macho, etc. Les femmes sont, se sont très tôt, et les hommes aussi, intéressés à ces questions. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Très bien, je me doutais un petit peu de ça, et je pensais que vous alliez nous parler d'Olympe de Gouges, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, le fait qu'elle entre, puisse entrer au Panthéon. Mais...
Oui, mais...
Ah ben, je pense, enfin, c'est moi qui vais prendre la parole, parce que Catherine serait intarissable. Olympe de Gouges doit être citée peut-être, mais elle n'a aucun rapport avec Marseille, et donc c'est compliqué de la faire rentrer, même si elle a tous les mérites, mais elle n'a pas de mérite de Marseillaise. Donc là, nous avons une limite géographique, et nous disions, on a aussi quelques regrets, mais là, on a atteint la possibilité, la capacité maximale d'un dictionnaire. Sinon, il faut faire comme le dictionnaire de l'Académie française, c'est-à-dire il faut faire plusieurs tomes et les séparer par de A à C, ou etc. Parce qu'un seul tome avec 500 pages, on est archi plein. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le CFUP autour d'Yvonne Kibner que nous aimions tant. Et ensuite, quand il a cessé ses activités, il y a eu la naissance de la MMSH, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. Hein, parce que donc toutes ces sciences humaines, au lieu de dire humaines, ça aurait été mieux, ces sciences de l'homme. Mais là, il y a eu un certain nombre de ces chercheuses qui ont repris l'activité sur place. Et également, moi j'étais issue des lycées, et on est venu me chercher pour travailler sur les femmes en tant que chercheuse, pour faire l'interface avec les enseignements. Et par exemple, j'ai parlé du 60e anniversaire, mais du premier vote des femmes. Mais la grande période, moi, ce qui m'a fait rentrer dans l'histoire des femmes, enfin, il y a eu deux choses, c'est que j'ai eu l'idée que mes élèves de première pouvaient interroger leur grand-mère qui avait été les premières votantes en 1945. Et donc, en 1994 et 95, j'ai travaillé avec elles et on était en train de travailler au dictionnaire, qu'on a enrichi d'ailleurs avec des notices, les premières élues, pour celles qui étaient encore en vie, mais qu'on mettait sous le vocable premières élues. Donc, on a continué et on a eu un groupe recherche femmes à Aix, et donc le midi. Le Midi n'est pas si machiste que ça, puisque Marseille a quand même été la première ville à avoir une délégation aux femmes, donc sous Gaston Defferre, dès un peu avant sa mort, dès 84, puisqu'il est mort en 86, et après ça a continué. Les autres villes nous ont suivis, et c'est donc la plus ancienne ville de France, celle qui a le plus ancien passé, qui a donné l'exemple, avec, dès le départ, qui ça ? Eh bien, Gyptis, le mariage mythique de Gyptis et de Protis, donc à Marseille, depuis les débuts, un homme sur deux est une femme. Et puis, vous avez, on ne l'a pas mise, mais vous avez à la grotte Cosquer, quand vous montez, que vous avez vu ce spectacle magnifique, où on sait qu'il y a des mains de femmes, de mains d'hommes et de mains d'enfants, vous êtes accueillis dans une galerie où vous avez une des Marseillaises des origines qui vous tend un coquillage en guise d'accueil et qui est magnifiquement coiffée avec des bijoux en coquillage qu'on a retrouvés pratiquement sur place. Donc, nos Marseillaises, elles devraient commencer à, pourquoi pas, 30 000 ans avant Jésus-Christ.
Oui. Donc, pour l'association Les Femmes et la Ville, revenons là-dessus, quel est le rôle majeur a-t-il joué un peu dans tout ce travail-là autour des femmes, d'une part ? D'autre part, je voudrais savoir la complémentarité ou pas avec le MLF, parce que c'est quasiment un peu la même période, ainsi que le MLAC. Est-ce qu'il y avait des possibilités de passerelles entre ces mouvements ? Parce que, bon...
Non, l'association Les Femmes et la Ville est une association de chercheuses apolitiques. Le MLF, c'est un mouvement très vaste qui regroupe beaucoup, beaucoup d'opinions à l'intérieur. Il y a eu, à l'intérieur de ce mouvement, d'autres qui ont pris une autre allure, plus politique. Et là, on retrouve aussi Marseille un peu, puisque une des femmes à l'origine de ce mouvement, c'est Antoinette Fouque, qui, elle, était née à Marseille, et qui a fondé l'Alliance des Femmes. hein, l'Alliance des femmes, qui ensuite déposait le sigle MLF, ce qui a provoqué quelques dissensions et contestations. Donc vous voyez, il faut bien distinguer l'associatif, le côté chercheur et le politique militant. Quelquefois, il y a des croisements. On parlait du rôle de Gaston Defferre dans le développement donc, du souci femme dans la municipalité. C'est lui qui a favorisé la création du CODIF, dès le début. Donc il y a aussi cette mouvance. Qu'il n'y ait pas Olympe de Gouges à Marseille, c'est une évidence. Elle n'est pas d'ici, c'est un personnage universel. Mais en ce qui me concerne, j'ai quand même le souci de marquer dans l'espace urbain la trace des noms de femmes. Dans ce quartier, je suis heureuse qu'il y ait une rue Maméga, une rue Odette Tarragonnet. Toutes les deux sont dans le dictionnaire. Et j'ai siégé un temps à la commission des noms de rue, et c'était très dur, parce que c'était très dur d'obtenir autre chose pour une femme qu'un rond-point, qu'un escalier, qu'une placette, qu'un espace où il y a très peu de gens. Alors, justement, Olympe de Gouges, elle a son espace Olympe de Gouges, qui est sur le plan de Marseille. Mais si vous allez là-bas, vous vous tournez de tous les côtés, il n'y a pas de plaque. Donc c'est un des travaux que j'ai à faire en tant que citoyenne maintenant, c'est de recenser tous ces manques et de demander à la municipalité de faire l'essentiel avec la métropole pour que les noms soient mis. Vous voyez, parce qu'on a beau batailler pour faire connaître l'histoire des femmes, il y a des petits oublis qui sont quelquefois très parlants.
Alors, Louise Michel, est-elle marseillaise ?
Elle n'est pas née à Marseille. Elle est née dans la Haute-Marne. Mais elle est décédée à Marseille. Oui. Elle est décédée à Marseille sur le boulevard d'Athènes. Enfin, un petit peu plus bas, en fait. Boulevard du Gommier. Et il y a sur sa maison mortuaire une plaque. Hôtel Duc. Cette plaque a été posée au début des années 80. Au tout début des années 80. Elle a aussi un rond-point qui est dans le 15e arrondissement, qui avait été inauguré du temps...
En 1996, où nous étions invités tous les deux.
1996, pardon. C'était M. Guy Hermier,
oui,
qui était le maire de secteur.
Le maire de secteur à l'époque.
Et on nous avait invités le 8 mars 1995.
Voilà. Et puis, il y a aussi, plus récemment, un square Louise Michel, qui est tout près de sa maison mortuaire et qui est le résultat d'une volonté locale et d'un groupe de mouvements anarchistes qui soutiennent son idée. Louise Michel, c'est un personnage absolument extraordinaire, admiré par Victor Hugo, qui était non seulement une penseuse politique, une institutrice passionnée, une combattante de la commune, une défenseuse des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Tout ça, chez cette frêle femme, qui est décédée à 74 ans d'une pneumonie attrapée pendant qu'elle faisait une tournée de conférences à Marseille.
Alors, ce que je voudrais dire sur Louise Michel, c'est qu'on aurait même pu ne pas la mettre en tant que passante, parce que nous avons inclus en tant que Marseillaise, par exemple, Gabrielle Russier, qu'on avait placée en passante, mais son destin s'étant noué à Marseille et sa vie s'étant arrêtée à Marseille, nous l'avons baptisée Marseillaise. Alors, pour Louise Michel, il y a eu, pour le centième anniversaire de son décès, il y a eu des colloques ici à Marseille, et ce que nous voulons dire, que c'est dans sa notice qui a été rédigé par Daniel Armogat, qui est un des spécialistes de Louise Michel, nous avons fait allusion à son immense carrière, mais nous avons privilégié ses passages à Marseille, parce qu'elle y est passée 6 fois, dès 1882, dès ses premières, quand elle est revenue de Nouvelle-Calédonie, elle est revenue en 91, dès 1882, elle était à Marseille. Elle allait souvent en Algérie, donc elle s'embarquait à Marseille, depuis Marseille pour Alger, et elle y a fait des séries de conférences annoncées par la presse, d'ailleurs, dans différents lieux. Et quand elle est venue au moment de son décès, elle ne comptait pas faire de conférence à Marseille. Elle est venue pour se faire soigner, où elle avait ses habitudes. Elle y avait même son médecin qui venait. Elle venait souvent dans ce petit hôtel, très simple. Sa chambre est extrêmement dépouillée. J'ai eu le plaisir de faire une émission en direct depuis sa chambre par le biais de Marsactu, par exemple. Et donc, nous avons privilégié l'épisode de Marseillais parce que, bien sûr, nous n'avions pas, autrement, il lui fallait être je ne sais combien de pages. Voilà. Donc, on a des cas particuliers, bien sûr.
Il y a une autre passante, je voudrais citer Joséphine Becker, dont nous avons cité, évidemment, les passages à Marseille, celui au cours duquel des dames sont venues lui demander des subsides pour construire une... Elle était très pieuse, Joséphine Becker, et très généreuse. L'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est dans le quartier des Chutes-la-Vie, elle a ouvert son portefeuille. Et puis, il y a aussi ses passages à l'hôtel Noailles, où, étant régistante, elle passait des papiers interdits. Il y a eu ces innombrables séances de chant à Marseille. Et vous pouvez, si vous regardez sur Internet, trouver dans les archives de l'INA un passage où elle dit son amour pour le public marseillais. Et elle a un escalier.
Elle a un petit escalier.
Joséphine, oh, il n'est pas petit. Il est très long. Je l'ai descendu le soir de... Moi, je ne descends pas les escaliers de revue. Hein. C'était un clin d'œil à sa meneuse de revue. Et je n'ai pas de ceinture de banane pour danser. Mais elle a ce long escalier qui regarde les chutes de la vie et que j'ai descendu le soir de sa panthéonisation, pensant à elle. Et je n'ai trouvé aucune plaque, ni en haut, ni en bas. J'ai du pain sur la planche.
Voilà, c'est ce que nous observons. Nous allons dans... Bon, par exemple, il y a un arrêt qui permet de savoir qu'il y a Désiré Clary. Donc, heureusement qu'il y a le métro, mais qui sait, qui connaît cette personne-là? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui est cette personne, comment l'avez-vous découverte et pourquoi figure-t-elle dans le dictionnaire des Marseillaises?
Alors, attendez, vous me...
Désiré Clary.
Ah, Désiré Clary, je n'en suis pas la spécialiste, puisque c'est Eliane Richard qui a écrit dessus. Mais bon, on n'a pas privilégié automatiquement les reines. Mais il se trouve que par la force des choses, on a plusieurs reines, soit de passage, soit des natives. Et donc, non seulement on a Désiré, mais qui... c'est presque les demoiselles de Rochefort. On a Désiré, mais on a aussi Julie, les deux sœurs Clary, puisque Désiré est devenue reine de Suède et a été la fiancée de Napoléon, mais sa sœur Julie, son aînée, mais elles étaient inséparables, a épousé Joseph Bonaparte, l'aîné du frère de Napoléon, et est devenue reine de Naples, puis reine d'Espagne. Et toutes les deux, elles ne se sont absolument pas plu dans leurs fonctions, et les trois quarts du temps, elles préféraient Paris. Et Désiré n'est venue en Suède de façon continue que très, très, très tardivement. Quant à Julie, pratiquement, elle n'a pas résidé du tout en Espagne. D'ailleurs, Joseph n'est pas resté longtemps roi d'Espagne. Mais disons que dans la période de la Révolution, ce genre de choses... Napoléon ayant distribué des couronnes, pas pour Bernadotte, parce qu'il a été élu, mais justement parce qu'il était un lieutenant de Napoléon... On a eu un peu des bouleversements, mais la famille Clary était quand même une famille de négociants, très très bien implantée sur la place et très riche. Hein, voilà.
Revenons au travail que vous avez fourni. Comment les choses se déroulent-elles? Est-ce qu'il y a une commission technique d'experts pour pouvoir valider un peu? Est-ce un travail collectif, individuel? Puis après, comment cela se décide pour qu'une personnalité puisse figurer dans le dictionnaire?
Oui, c'est le résultat d'un travail commun. C'est le rôle du comité de rédaction. Chacune demande ou se voit attribuer telle ou telle notice en fonction de ses intérêts, de ses personnalités ou de ses connaissances particulières. Par exemple, Eliane Richard qui est spécialiste de l'histoire des négociants et des industriels au XIXe siècle, a traité beaucoup de ces personnes, comme par exemple la très célèbre Rosine Noailly-Pratt, oui, qui a tenu les rênes pendant longtemps de la firme Noailly-Pratt. Elle a commencé lors de son veuvage et elle a transmis à ses fils, lorsqu'ils ont suffisamment grandi, les rênes de la société. Mais elle est très connue aussi à Marseille pour voir fond. Elle était d'une générosité extrême et elle était, comme beaucoup de ces personnes, munies de beaucoup d'argent et d'une haute position sociale. Ça faisait partie de leur rôle d'avoir des œuvres sociales. Donc, elle en a fondé un nombre incroyable, sans parler de toutes les églises, etc. Donc, il y a tous ces aspects dans son œuvre. Donc, ça s'imposait que ce soit Eliane et aujourd'hui, certaines femmes d'affaires et tout. Moi, de mon côté, j'avoue que je suis un peu tout-terrain.
D'accord. Une autre question qui me semble être aussi importante, c'est à savoir, est-ce qu'au départ, il y a des critères qui sont arrêtés, qui sont définis, pour cerner un peu quelle personnalité qui pourrait figurer dans ce dictionnaire ?
On en discute entre nous.
Il n'y a pas des critères arrêtés, bien, bon, qui permettent de pouvoir dire effectivement.
On en discute entre nous, hein, très librement, en comité de rédaction. Et quand chacune a fini son travail, eh ben, elle soumet son travail aux autres, qui corrigent, suggèrent, taillent. Et puis, alors, pour finir, on passe sous les fourches codines d'Hélène.
Parce que
Hélène, c'est la reine de la typographie.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que j'ai relu et recorrigé la revue Marseille pendant 25 ans, du temps que mon mari dirigeait Pierre Échinard. Et donc, j'ai relu et recorrigé pratiquement tous les gens qui ont écrit là-dedans. Alors, c'est presque un pli du métier, parce que quand un bouquin est fini, j'ose pas le regarder parce que je vais trouver des choses, mais ça arrive. Voilà, alors je voulais finir pour les Pastrées, Eliane, pour les Noliprane, Madame Noliprane et Eliane Richard. Bon, déjà avec les Clary, puis ce sont des négociants, mais elle a fait aussi toute la série des Pastrées, dont Lily Pastrée, puisqu'elles étaient apparentées à la famille Noliprane. Et puis les deux personnes, la fondatrice de la famille Pastrée, et puis la très belle Céline de Bolincourt, qui était... elle aussi une mécène comme la comtesse Pastrée, mais qui avait en plus pour elle la beauté et qui faisait des conquêtes. Bon, il y a également, je voulais revenir sur Désiré Clary, des sources qui arrivent. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'on m'avait appelé à la MMSH pour l'interface avec les élèves, et aux femmes et la ville, on m'a appelé parce que j'ai communiqué pour leur premier colloque sur une personne extraordinaire qui était dans la couverture du premier livre, qui est Julie Pélison, dont j'ai transcrit le manuscrit de plus de 1000 pages, et qui a fait un journal qui n'était pas un journal intime, mais un journal sur la vie de sa ville. Et donc, elle est une véritable chroniqueuse. Et qu'est-ce qu'elle dit dans les années 20 que Désiré Clary est passé à Marseille et a donné 1500 francs aux œuvres de bienfaisance. Alors ça ne donne aucune biographie de Désiré Clary. Mais on arrive comme ça à avoir des choses extraordinaires. Et grâce à Julie Pélison, j'ai fait des directrices de théâtre, j'ai trouvé tout un tas de choses, des renseignements qui auraient été inédits. Alors bien sûr, maintenant c'est publié, mais les gens n'ont peut-être pas idée d'aller chercher là-dedans. Alors nous avions... moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de personnes du spectacle, ne serait-ce que en mémoire de mon mari, qui a encore fait deux notices dans Maria Mauban et Victoria Marino, qui étaient des contemporaines, qui sont décédées après la sortie du deuxième ouvrage. Mais j'ai une documentation extraordinaire sur le monde du spectacle. Zizi Jeanbert était venue à la maison pour nous demander des renseignements pour faire des décors de ballet. Et ce n'est pas moi qui l'ai faite là, c'est le directeur de du hall de la chanson à Paris qui est un ami. On a fait Zizi Jeanbert qui est restée 25 ans à Marseille et qui est à la fois ballerine classique, chanteuse et danseuse de musical. Donc on a eu comme ça par exemple des choses qui étaient incontournables. Et quand nous avions des idées... On s'est partagé quand même quelquefois le travail. À partir d'une lecture que j'avais à la maison, je sais que Madame Richard est d'origine catalane, nous avons trouvé une personne qu'on connaissait, le mari, mais qui avait dit « Mais ma femme, elle a fait ceci, cela ». Il m'avait donné les souvenirs de sa femme. Et à partir de là, Eliane Richard a fait Maria Belloc, qui est... quelque chose, une personne extraordinaire. Voilà. Et donc, on a eu du mal à retrouver la photo. Une photo, il a fallu trouver auprès des enfants. Alors, on a eu des contacts comme ça extraordinaires avec des familles, justement, pour qu'ils puissent nous alimenter. Parce que ces gens avaient été complètement oubliés. Et donc, il nous fallait les rendre à la vie. On met que celles qui sont décédées, mais nous les rendons à la vie.
D'accord. Catherine, je voudrais revenir, lorsque vous avez parlé de Joséphine Becker, des escaliers, la question qui se pose, c'est l'occupation de l'espace public laissé aux femmes. Et ce qui m'importe, je n'ai pas retrouvé d'un dictionnaire, puisque j'ai essayé de parcourir, parce qu'effectivement, il est tellement riche, retrouver un peu l'idée que vous avez développée concernant les escaliers, en parlant d'escaliers, les escaliers de la gare Saint-Charles, et la figure de ces femmes qui sont en statue. Est-ce que vous pourriez en toucher deux mots, et pourquoi ne figure-t-elle pas dans le dictionnaire, par exemple?
Les escaliers de la gare Saint-Charles, je me suis intéressée pour... J'ai participé à la fondation d'une revue d'histoire des femmes en 1994, qui est une revue qui dure encore, mais qui a un peu changé de nom, qui s'appelle « Histoire, femmes et société ». Et nous avions des numéros thématiques. Et lorsque, en comité de rédaction toujours, hein, ça se passe, on était provinciale, marseillaise, parisienne, on se rassemblait, etc., j'ai eu l'idée de proposer un sujet sur les escaliers de la gare Saint-Charles parce que ce sont des escaliers placés à un endroit stratégique de la ville et qui sont bourrés de symboles. Bourrés de symboles. Or, pendant très longtemps, la seule représentation des femmes dans la ville, c'était des symboles, c'était des allégories. Alors l'allégorie des colonies, l'allégorie... Et sur les escaliers de la gare Saint-Charles, vous avez à mi-chemin deux représentations des colonies d'Afrique et des colonies d'Océanie qui représentent tous les stéréotypes qu'on avait à propos des femmes et de la colonisation. Mais c'est un article que j'ai déjà écrit il y a un certain temps, donc je ne connais plus tous les détails. Mais c'est j'ai un grand intérêt pour tout ce qui est du symbolique dans la cité, dans la société. Et c'est pour ça aussi que dans notre dictionnaire, dès le début, on ne s'est pas contenté de femmes vivantes ayant existé, mais aussi de symboles comme la Bonne Mère, hein, qui est un marqueur. C'est surtout les logos aujourd'hui. Et ça symbolise bien des choses sur les relations des habitants de Marseille avec la mer, le rôle des échanges, etc. Et puis aussi, il y a d'autres symboles. Ben, Gyptis, Hélène en a parlé, c'en est un autre encore. Et puis aussi des symboles dans les arts, dans le cinéma. Nous pensions que la vieille Dame indigne de René Alliot, qui est un cinéaste marseillais, qui a été tourné à Marseille, était un bon marqueur d'une certaine représentation des femmes à un certain moment dans la société. Fanny, la Fanny de Marcel Pagnol, a été aussi un certain symbole des femmes à un moment donné. Et puis on a aussi des personnages théoriques, si j'ose dire, comme la cagole.
Oui, hein,
la cagole, la représentation de la cagole a beaucoup évolué au cours du temps. Pour un certain nombre de gens, ça désignait simplement une femme vulgaire, mais de notre temps, des femmes ont inversé le stigmate et se sont servies de ce terme de cagole pour dire, ben oui, on est comme on est là, et vous nous prenez comme on est. Et c'est ainsi qu'elles ont envahi le stade de l'OM, par exemple, où il y a les cagoles qui emmènent.
D'ailleurs, nous n'avons, comme nous l'avons dit, nous avons des collaborateurs hommes. Ils sont à peine en infériorité, mais si bien la représentation actuelle, on a toujours un peu plus de femmes que d'hommes. Mais pour la cagole, nous l'avons confiée à Médéric Gasquet-Cyrus, qui, sur les ondes depuis longtemps, enfin, il est encore très jeune, mais... explique aux Marseillais et au-delà qu'est-ce que c'est que le parler marseillais et donc qu'est-ce qu'entre autres que la cagole. Donc chaque fois que nous avons eu l'apport d'un spécialiste de la question. On n'a pas regardé si c'était un homme ou une femme à ce moment-là. Voilà. Et parmi les symboles, nous avons aussi la belle de mai. Parce
oui,
que la
belle
de
mai,
c'est
aussi
une tradition méditerranéenne. De petites filles d'ailleurs, hein, voilà. Et donc ce quartier de la Belle de Mai, ça nous a aussi inspiré de faire une nouvelle notice parce qu'il y a tellement de Marseillais qui sont nés, hommes et femmes, à la maternité de la Belle de Mai que nous avons fait sage-femme et parturiente, c'est-à-dire celle qui met au monde de la Belle de Mai. C'est une de nos nouvelles notices collectives. Et parmi alors les toutes nouvelles mais liée à des collectifs immémoriales, on pourrait dire, comme les Poissonnières, c'est Catherine Marenfouquet qui a fait la notice de Nana, qui nous a dit adieu juste au moment où on allait mettre sous presse.
Eh bien, merci pour la transition. Cela nous permet d'avoir de faire une pause musicale, notamment avec un monsieur, Grand Corps Malade, qui parle des femmes, qui célèbre les femmes à travers son morceau « Mesdames ». Merci Sidi.
Acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maméga sur les ondes de Radio Galère au 88.4 FM. Merci en tout cas pour tous ces échanges qui ont été riches. Et je pense à Nicolas qui est à mes côtés, qui n'a pas pipé mot depuis tout à l'heure. Donc peut-être c'est l'occasion pour lui de nous expliquer comment est-ce que lui est venue l'idée pour le 7 mars d'inviter mesdames Belmonte et Chinard pour présenter le dictionnaire Les Marseillaises.
Dans le bon ordre. Oui, merci beaucoup. L'espace culturel Busserine, depuis quand même plusieurs années, organise une semaine des droits de la femme, donc, qui se situe autour du 8 mars de préférence. Et cette année, nous avions un peu un trou en concernant des tables rondes. Et en cherchant un petit peu, notre élue à la culture de la mairie de secteur, Madame Écart, nous a mis en contact avec Lydie Belmonte, qui nous a suggéré de cette conférence-là. Nous avions eu le plaisir d'accueillir Hélène, ici présente, qui nous a raconté, je dirais, les Marseillaises, le dictionnaire. Tout ça dans un cadre où il y a eu des films, des spectacles d'humour dédiés aux femmes, du théâtre, un petit peu de tout, et que nous allons renouer avec l'année prochaine.
Ben, merci Nicolas pour ce résumé. Jean-Marc avait une idée, c'était...
Oui, c'est que nous allons poursuivre, hein. Parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez peut-être nous dire quels sont les personnages, les personnes, les femmes et les femmes qui vous ont le plus marqué lors de la rédaction de ce dernier tome que vous avez écrit, rédigé. Est-ce qu'il y en a plus particulièrement qui ont été plus à même que vous puissiez porter le plus d'attention possible? Est-ce que vous pouvez en nommer deux ou trois, nous dire le pourquoi du comment? Qu'est-ce qu'elles ont fait qui fait qu'elles vous ont marqué? Ou ce sont toutes aussi, hein, vous pouvez le dire. C'est un peu compliqué peut-être.
Alors, les personnes qui nous auraient le plus
impressionnées, marquées.
Alors, moi, je redonnerai la parole à Catherine. Mais parmi les résistantes, bien sûr, j'en détache trois. J'ai fait la notice de deux des trois. Et elles sont en principe étrangères, mais pas tout à fait. Parce qu'elles ont un point commun. Elles sont toutes membres du SOE, le service secret de Churchill. Il y a eu le film les Femmes de l'ombre. Et justement, Sophie Marceau, donc c'est très résumé, parce qu'en plus c'est pas exact au niveau de son frère. Sophie Marceau, en fait, c'est Lise de Bessac, que nous n'avions pas faite, puis j'ai cherché, j'ai trouvé énormément de choses. Elle a sa rue dans le troisième, avant d'être dans le DICO, donc ça n'a pas eu l'effet DICO dans les rues. Et cette femme, qui est née à l'île Maurice, c'était la doyenne, elle avait 30 ans, hein, c'était la doyenne des espionnes de Churchill. Et elle a vécu, elle a survécu, elle a combattu, elle avait été parachutée, c'était une des premières parachutées en France. Elle a été chef de réseau et de plusieurs réseaux. Elle s'est battue contre les Allemands au moment du débarquement en Normandie, parce qu'elle était par derrière, elle a fait des sabotages, enfin elle a fait de tout. Et après la guerre, elle s'est mariée avec un Marseillais qui était en fait un amour d'enfance qu'elle avait dû rencontrer à l'île Maurice. Et la famille était d'origine, Lise de Bessac, française, donc qui parlait le français. Et il fallait, bien sûr, pour espionner en France, il fallait passer pour des Français. Et elle a passé les 50 dernières années de sa vie à Marseille, où elle est décédée. Et elle a passé son temps aussi, après, à témoigner. Et d'ailleurs, nous avons mis une nouvelle rubrique dans notre index, une passeuse de mémoire. Et donc, elle n'a pas croisé, elle a croisé d'autres personnes du SOE qu'elle a formées, d'ailleurs, puisqu'elle était aussi formatrice pour sauter en parachute, ceci, cela. Bon, et alors, elles avaient les capsules de cyanure au cas où elles seraient prises. En fait, c'était vraiment des femmes extraordinaires. Il y en a donc deux autres. Une autre que j'ai retrouvée, mais en même temps qu'un écrivain marseillais, enfin lui, 15, un mois après, il a retrouvé la famille, mais il a publié avant moi parce que c'était dans le dictionnaire, moi il fallait attendre la publication. C'est Eliane Braun Plumann, dont la famille vit ici, qui est née à Marseille en 1917, qui a quitté Marseille en tant qu'adolescente, et qui est partie d'abord en Espagne, puis sa mère est espagnole, mais quand l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne, comme la France d'ailleurs, elle est allée s'inscrire au SOE, et elle a aussi parachuté, et comme elle connaissait très très bien Marseille, et la famille Massenet, dont Catherine a parlé, elle s'est installée à Marseille, rue Mérintier, 8 rue Mérintier, et de là, elle a rayonné, elle a résisté, elle a fait énormément de choses, mais le réseau a été trahi, donc elle a été arrêtée, emprisonnée, torturée, et ensuite, au moment où les Allemands faisaient le ménage, parce que le débarquement avait déjà eu lieu, en septembre 1945, elle a été amenée à Dachau, où il n'y avait en principe pas d'hommes, et avec trois autres martyrs, elles ont été descendues d'une balle dans la tête et puis brûlées immédiatement dans un four crématoire. La famille a eu des nouvelles que presque 2 ans après. Et donc, voilà une autre qui a un impact avec Marseille. Et puis, on a parlé de la gare Saint-Charles. Il y a à la gare Saint-Charles, une petite plaque sur l'hôtel Ibis pour Nancy Walk. Nancy Walk, et elle s'est mariée à Marseille. Elle était aussi du SOE, vous voyez, donc c'est assez extraordinaire. Et elle s'est mariée avec un richissime Marseillais qui était plus âgé qu'elle, mais ils ont tellement bien résisté tous les deux. Elle s'est mariée à l'hôtel du Louvre et de la Paix, c'est-à-dire ils ont fait une grande fête là où il y a CEA maintenant. Hein. Elle était journaliste, elle a fait reporter pour l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie en 34, donc elle avait des liens avec Marseille, même si elle n'y est pas née, puisqu'elle était, australienne. Bon, donc, son mari a été... elle est partie, elle s'est engagée elle aussi dans les différents réseaux de résistance, puis le SOE, et donc ils ne sont pas restés longtemps ensemble parce qu'elle s'est mariée en 1939, et lui est resté à Marseille, et il a été assassiné par les nazis parce qu'il résistait. Donc voilà 3 destins de femmes qui sont nouées en quelque sorte à Marseille, et même si ce n'est pas moi qui ai fait Nancy, c'est Catherine, j'ai fait les 2 autres, vous voyez. Voilà des coups de cœur en quelque sorte. Catherine ?
Oui. Oui, avant de parler de mes coups de cœur, je voudrais dire aussi que Eliane Richard, qui est académicienne de Marseille, a traité des académiciennes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, puisque bien que l'Académie de Marseille ait été un petit peu en tête pour recueillir des femmes, c'est très maigre. La proportion. Renée de Rébensoussan est aussi académicienne de Marseille, et Renée de Rébensoussan, comme on sait, est la spécialiste de l'histoire des Juifs à Marseille. Donc voilà des spécialisations qui vont de soi. Alors moi, j'enchaînerai sur une autre membre du SOE, donc, qui était avec son mari et sa fille, ont été une cheville ouvrière de la résistance entre 1942-1944 jusqu'à la libération, et même pour le mari, un petit peu plus loin, puisqu'il a dû être administrateur sur ordre de la résistance pour les quelques années qui ont suivi. Ils habitaient dans une bastide. Lui était un ingénieur aéronautique au départ, réfugié à Marseille avec son usine. Elle le rejoint par la suite. Il s'installe dans une bastide qui est entre Mazargues et Bonnevaine, bastide du XVIIe siècle, très inconfortable, mais la propriété a 3 entrées. 1 sur le chemin de flûte, comment ça s'appelle ? La traverse Ratonneau, je crois. Non, c'est pas la traverse Ratonneau, c'est autre chose. La traverse Ratonneau. L'autre sur les chemins de Bonnevaine, et l'autre vers le chemin de Mazargues. Et donc avec ces 3 entrées, une pour un maraîcher, une pour la Bastide et une autre pour le haras, ça permet des circulations discrètes au nez et à la barbe des Allemands qui viennent acheter des légumes chez le maraîcher. Et elle tient un rôle qui est un rôle féminin essentiel dans la résistance. Quand la guerre s'est finie, on a porté au pinacle les gens qui avaient porté des armes. Mais il y a toute cette armée de femmes, de jeunes filles et autres qui ont porté des messages, qui risquaient autant que les hommes, mais qu'on n'a pas mis à l'honneur pareil. Et chez eux, bon, elle était née, Marthe Massenet était née anglaise, donc elle était parfaitement bilingue. Sa fille, née en Angleterre, l'était aussi. Lui, M. Massenet, était son beau-père, donc. Elle traduisait et transcrivait la nuit tous les messages pour le SOE. Et ils accueillaient des parachutés qui ne venaient pas directement chez eux, puisque celle dont Eliane a parlé, par exemple, était parachutée ailleurs, mais ils arrivaient par des chemins. Et là, ils se restauraient, ils reprenaient leurs forces, et avec les instructions qu'ils leur donnaient, ensuite ils repartaient en mission dans la ville. Il leur est arrivé, même à la fin de la guerre, d'abriter 2 jeunes résistants qui étaient Gaston Defer et Francis Lénard, et de les cacher jusqu'à la libération de Marseille, etc. Et c'est, bon, ils ne sont restés que quelques années à Marseille, mais ils ont laissé un témoignage écrit extrêmement précieux. Elle et lui tenaient chacun de son côté un journal, au jour le jour. Ils l'ont publié plus tard, sous un titre très modeste, « Journal de deux Français moyens pendant la guerre ». Et c'est elle qui a fini la rédaction, puisque lui est décédé alors qu'il venait de finir l'écriture, en 1969. Et puis par la suite, elle a aussi publié un livre remarquable qui s'appelle « Madame Veuve ». Hein, donc son nom, c'est Marthe Massenet. C'est une personne considérable. Pas par le nombre d'années qu'elle restait à Marseille, mais par la qualité du témoignage humain. Et puis il y a cette petite jeune fille là qui était élève au lycée Montgrand, qui a passé son bac et qui, dans la journée, allait au lycée, transportait les trucs et la nuit traduisait. Son portrait est dans le cahier couleur. Les Américains les appelaient tous les trois « the team ». D'accord. Autrement dit, l'équipe.
Ce que je retiens avant de te conclure, c'est qu'il y a certains personnages étant dans les quartiers nord où il y a une composante de plus en plus issue de diverses migrations, que là nous retrouvons des personnes telles qu'Adaoui Gofran, Hadid Zahab, Baya Aboun, que nous avons connu, bon, qui est marié avec Jourquet, et bon, que nous avons bien connu, Jacques, et les Égyptiennes. Donc c'est cette ouverture que vous proposez, et qui me semble que peut-être qu'il y a des passerelles à faire avec des amis que nous avons, et notamment une amie que j'embrasse bien fort, qui s'appelle Karima Berich, et donc qui est notre passage de mémoire, mais en ce moment nous ne la voyons pas, mais nous pensons énormément à elle, qu'il y aurait une possibilité de faire pas des passations, mais des passerelles à établir entre le travail que vous faites et d'autres personnes, parce qu'avec l'association Proche Culture et Territoire, que vous connaissez peut-être, qui font un travail qui est assez intéressant, assez important, qui pourrait rejoindre un peu tout ce recueil d'informations que vous avez, surtout lorsque vous évoquez, Catherine, Mesdames Masri et Mesdames Birébou, par exemple. Ah, il y a beaucoup de personnages, parce que hormis la stigmatisation de ces quartiers, il y a tellement de dames, de personnes qui sont complètement investies. Lorsque nous prenons par exemple le groupe de veille, nous voyons que ce sont beaucoup de femmes qui sont en activité et en action, qui permettent de combattre, d'être là sur le devant de la scène pour demander l'amélioration aussi du cadre de vie. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami Nicolas, mais tout ce sont elles qui sont là et qu'il faudrait à un moment donné qu'elles puissent avoir aussi une place, une forme de reconnaissance. Donc je suis très content que vous puissiez avoir évoqué ces deux personnes des Flamands aussi.
Moi, je pense qu'il est temps de passer le témoin.
Voilà.
Nous avons atteint un âge respectable. Nous n'avons plus les mêmes capacités intellectuelles qu'avant. On est beaucoup plus lente. On se fatigue beaucoup plus vite.
Capacité physique surtout.
On a aussi des charges de famille enfin qui s'alourdissent. Bon, le temps passe et il est temps que de nouvelles personnes prennent le relais. Le rôle que vous évoquez, c'est celui qu'a eu votre maman, hein, Maméga, dans les quartiers, ces dames aussi, et il y en a bien d'autres. Moi, j'ai vu passer des noms comme ça, mais je n'avais pas les relais, les éléments pour suivre. Maintenant, il est temps que d'autres équipes prennent le relais. Ça vaut la peine, il le faut.
Oui, bien qu'il y ait beaucoup de questionnements en lien avec votre travail que vous avez fourni, d'un point de vue universitaire, est-ce qu'il y a un enseignement particulier concernant la place des femmes aussi? Est-ce que cela est enseigné à la faculté? Vous avez parlé de l'époque où il n'y avait strictement rien. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et d'un point de vue pédagogique, où en sommes-nous? L'autre question, en corollaire, c'est à savoir, par exemple, lorsqu'on parle du genre, est-ce que cela est traité actuellement? Est-ce que cela est revu? J'ai retrouvé ça, pour ça que je vous pose la question, parce que comme j'ai parcouru le dictionnaire avec pas mal d'attention, je me suis dit que peut-être c'est un premier pas et qu'il faut bien suivre aussi son époque. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il est évident qu'aujourd'hui, dans les universités, dans les facultés, les chaires d'histoire des femmes existent. Il y a des revues. Il y a des revues qu'on peut trouver sur Internet, d'ailleurs, et qu'on peut consulter comme ça. Il y a des équipes qui se forment, mais il faut bien voir les conditions du travail intellectuel. À partir du moment où ces sujets-là sont reçus et acceptés, ils sont mis en œuvre dans un cursus de gens qui font leur carrière et qui cherchent, par ces recherches, à grimper dans la carrière, etc. Pourquoi cet ouvrage a-t-il été possible? Parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, si j'ose dire. Il a été possible parce que certaines d'entre nous étaient à la retraite Donc ce sont, c'est le cas d'Yvonne Knibiller, qui était, Eliane Richard l'était aussi, je pense, déjà quand on a commencé, et qui se sont investis par curiosité, par goût du travail en commun, et qui ont eu la chance de trouver des éditeurs, etc. À tous égards, on était des pionnières. Moi, je m'étais mis en dehors de l'université pour des raisons particulières. Dans l'âme, je suis une franche tireuse, c'est comme ça.
Mais moi, personnellement, je le disais tout à l'heure, pour la première édition en 99, j'ai eu la possibilité de me mettre en semi-retraite, c'est-à-dire avec un emploi du temps allégé de moitié. C'est plus possible là, maintenant, parce que ça s'est durci, les questions de retraite aussi. Et là, je partais à 60 ans pile à la retraite, mais donc ça a été juste un peu après, et ça m'a permis de m'occuper aussi de mes parents quand le dictionnaire était terminé. Mais j'ai passé une année complète pour peaufiner le dictionnaire en étant en demi-service. Et ça m'a énormément servi, bien sûr. Alors après, oui, j'ai, pour la suite, j'étais à la retraite quand même. Et donc, j'ai rejoint le groupe parce que j'étais là. J'étais la Benjamine. Pas de beaucoup, mais j'étais la Benjamine du groupe. Voilà, donc c'est vrai que c'est un entier bénévolat. Et pendant ce temps aussi, nous menions les femmes et la ville, nous menions des colloques, nous menions tout un tas d'activités. Et donc, on faisait feu vraiment de tout bois. Et là, maintenant, nous avons été que quatre à garder le cap alors que nous ne sommes plus l'association. Et c'est vrai que ça a posé problème, ça a posé un peu problème au niveau peut-être de l'aide à l'édition et pourquoi pas maintenant aussi à la diffusion, parce que je pense que le problème de la lecture et le problème du livre se pose. Alors j'espère au moins qu'un ouvrage comme cela sera dans les bibliothèques, dans les CDI, même si les lecteurs particuliers ne répondent pas trop à l'appel qui est lancé ici.
Justement, alors, comment peut-on se procurer cet ouvrage, d'une part, d'autre part, votre mot de fin, et quels sont vos projets? Parce qu'après, bientôt, il y aura une présentation qui sera faite au Musée d'Histoire de Marseille, n'est-ce pas? Parmi les projets. Donc, vous n'êtes pas encore prête à partir de la retraite?
Bon.
Non, Catherine.
Je l'ai, oui. Oui, merci Hélène. Prête à partir à la... Non, je ne me vois pas arrêter d'écrire.
Ah voilà.
Mais je pense que je vais mettre un petit peu fin aux ouvrages collectifs parce que j'ai besoin de dire des choses, de les développer. Pour ça, il me faut mon temps et du temps. Je me régale aussi à m'occuper de mes petits-enfants. J'ai eu la chance d'en avoir... j'en ai qui sont grands, je suis déjà arrière-grand-mère. Il y a une dernière fournée qui est arrivée et c'est encore des petits. Et j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Donc j'ai quelques projets. Et puis de temps en temps, maintenant je suis un peu un dinosaure. Donc de temps en temps, je pars en mission dinosaure. J'avais fondé en 1997... une association qui s'appelle ALMA, Allo Maltraitance des Personnes Âgées et Handicapées. Je l'ai menée longtemps. Là, maintenant, j'ai passé la main en tant que président, mais ils vont fêter leurs 30 ans cette année. Donc, j'ai participé à une conférence entre dinosaures, parmi les plus anciens du mouvement. Donc, je suis toujours partante pour l'émission Dinosaures, pour les 30 ans de Clio, Histoire, Femmes et Société, pareil, répondu à une enquête cet été. Mais bon, mais il faut savoir qu'un jour ça va s'arrêter et que donc si j'ai des choses que je tiens absolument à dire et donc à écrire, ben il faut que je m'y mette. J'ai plus de temps à perdre.
Alors, Hélène ?
Oui, les projets, voilà. Bah, j'ai encore des choses en cours. Mon mari faisait un ouvrage collectif sur l'histoire des Juifs à Marseille. Il a mis presque la dernière main au premier tome. Et donc, en principe, c'est chez l'éditeur. J'aurai encore peut-être un travail de relecture. Et normalement, il y a un deuxième tome qui devrait suivre avec des documents épars, mais comme c'est quelque chose de collectif, j'espère pouvoir réunir tous les morceaux et que sa mémoire continuera en tant qu'historien de Marseille, historien des minorités également, historien du spectacle, et c'est pour ça que j'ai continué, comme je vous l'ai dit, à faire pas mal de notices sur le monde du spectacle à Marseille. je ne peux pas rester inactive. Je pense que je bouge peu, mais le travail intellectuel m'aide à surmonter un certain nombre de problèmes affectifs et physiques.
Eh bien, j'espère que vous aurez montré la voie à suivre hein, aux générations à venir, d'une part. D'autre part, vous n'avez pas encore répondu à ma question, à savoir quel endroit peut-on se procurer cet ouvrage aussi. Voilà.
Alors écoutez, il a été commandé par un certain nombre de libraires, pas beaucoup et pas en grosse quantité. C'est un peu une déception, mais enfin, si vous le commandez chez votre libraire, il se le procurera. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y en avait 4 exemplaires au printemps La Valentine. On a la liste des commandes qui ont été faites. La bouquinerie des 5 avenues en a commandé 2, mais hier, ils n'étaient pas encore arrivés. Enfin, je fais un petit tour aussi des libraires parce que j'ai commis une grosse erreur dans une notice. Donc, j'ai demandé à l'éditeur de faire un erratum. Et je vois tous les gens qui ont déjà le livre et je glisse l'erratum. Hein, quand on fait des erreurs, il faut les réparer.
D'accord.
Et alors, à la page considérée.
D'accord.
Oui, ils ont annoncé. Ils ont fait Pâques avant les Rameaux, en quelque sorte. Ils ont l'AFNAC, la Procure à Paris, qui est une très très grande librairie, ont annoncé la sortie du dictionnaire avant même sa mise sur les rayonnages le 11 mars des librairies. Mais l'AFNAC, malgré cela, y compris l'AFNAC de Paris, n'en a pas commandé. Sous prétexte, en principe, ils ne travaillent qu'avec les grands libraires. Les grands éditeurs, pardon. Et donc, comme ils font la réclame, si vous le commandez par la FNAC, vous l'avez. Mais les gens qui, par exemple, à la suite d'une exposition qui faisait entre autres le point sur les femmes à Marseille, le comité du Vieux Marseille, faisait le point sur le travail des femmes et la ville, où les 3 dictionnaires étaient en vitrine, et on n'avait que le nôtre, on l'a sorti le dernier. Les gens sont venus croyant qu'on allait le signer. Mais ils disent, mais on vient de la FNAC, on l'a demandé. On était le 13 mars, donc c'était... Mais on ne l'a pas. Et donc, ils l'ont toujours pas. Donc, Gibert en a commandé un. Il fut un temps où je connaissais très bien le directeur, mais il a pris sa retraite. Autrement, il aurait organisé une séance de dédicace. Alors comme ça, les gens, s'ils ne le voient pas juste sur la tranche, ils n'auront pas l'idée, même s'ils ont entendu. Ou alors, il faut qu'ils notent bien et puis qu'après, ils aillent demander, soit par Internet, soit se présenter à la librairie et le commander directement.
Et la FNAC de la Valentine l'avait commandé au tout début du mois, ils ne l'ont reçu que le 18. Ah. Donc ça, c'est des problèmes de distribution. Je pense qu'à la FNAC Centre Marseille...
Non, mon fils est allé voir, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est là qu'on lui a dit, oh, mais Gossin, c'est un petit éditeur, nous ne travaillons qu'avec les gros.
Grâce à Galère, donc ça va changer. La FNAC Centre aura et demandera à voir des exemplaires,
chez
nous espérons.
Chez Jeanne Lafitte, je crois qu'il y en a 3. Enfin, il y en avait 3, en tout cas, sur leur bon de commande. Bon, mais il faut aller chez le libraire et demander, on veut ça.
Voilà,
et
d'accord.
48 heures après, ils vous le procurent.
Eh bien, nous vous remercions d'être venus, ravis, en espérant vous avoir à nouveau et vous revoir dans d'autres circonstances ou ici, parce que les locaux, les portes du comité Maméga sont ouvertes. Donc, à très très bientôt, j'espère, en sachant qu'au mois de mai, probablement, au musée.
Le 13 mai, 13 au musée mai. D'histoire, on voilà. fera une présentation à 4.
Voilà, vous serez les 4 mousquetaires, voilà. Au féminin.
Et en tout cas, merci pour votre accueil. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Une petite pensée pour Maméga avant de nous quitter.
Merci. Et merci d'avoir fait la connaissance de Madame Hélène Échinard aussi, que je ne connaissais pas. Merci Catherine de l'avoir emmenée aussi. Et merci aussi à notre ami Nicolas d'être présent. Allez, pause musicale avec Barbara Pravi, n'est-ce pas? Aussi, c'est une femme aussi, une chanteuse qui est dans une dynamique de parler des femmes et de leurs libertés qu'elles peuvent avoir. Merci.
Et la chanson La Grenade.
J'avais ton âge, il y a encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, il n'y a pas de stage. Pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage. Alors apprends à faire avec, rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman.
Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui crée les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvais à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure. Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité, c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité, c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y'a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y'a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots sont comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Alors.
Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal qu'on se fait par amour. Adieu le mal. L'amour, le mal, l'amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le mal, l'amour, le mal, l'amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
Toujours sur les ondes de Radio Galère 88.4. En dernière partie des échos du Grand Saint-Barthélemy, nous vous proposons de découvrir un atelier que nous avons mis en place avec Makaya, le centre social Flamand Iris et le centre social Saint-Barthélemy. Donc c'est un projet qui s'appelle Stories, où c'est que c'est des ateliers hip-hop qui s'axent autour du rap, de l'écriture, du savoir écrire et créer un texte de par sa vie ou de par de l'imaginaire. Donc à compter du 7 avril, du lundi 7 avril au 11 avril, nous continuons un stage. Le matin, nous serons au centre social Flamand Iris et les après-midi au comité Mamega dans nos locaux, où c'est que nous mettons en œuvre des ateliers hip-hop. Donc nous allons écouter quelques morceaux que nous avons mis en place avec les ados des Flamands. Sidji au platine, tu peux envoyer ça.
jamais ma vie, mes dernières nights. Je suis le meilleur derrière le mic. À faire j'ai changé mon décor. Je suis ailleurs, jamais à l'heure.
Avec ma team, on est ailleurs. T'es dans les nuages, dans le bonheur. C'est pas fini, je me cherche encore. Toujours changer de décor. Je fais du rap, d'autres bras.
J'ai fait du rap, j'ai fait du rap.
Je fais des gros sacs pour compte en banque. Ça, moi, tu te rappelles début de semaine, lundi, il n'y avait pas d'espi.
Eh ouais, je me rappelle. Et puis t'as fait l'ange son.
Et là, on fait un feat.
Aujourd'hui, j'ai pas d'espi. Fina, Issam et Kenny.
J'ai plein d'amis et d'ennemis. Mais la muse sera à l'abri.
Aujourd'hui, j'ai pas d'espi. Fina, Issam et Kenny.
J'ai plein d'amis et d'ennemis. Mais la muse sera à l'abri.
Dans ma tête, y'a rien à part péter le milieu. Des rires peint le cœur, la rage dans le regard. L'avenir incertain, lumière qui brille, des pensées sombres. On court après rien, les sous salgés, ça tue pour des billets sans nom. Trop de frais qui se perdent, un 3 sur un 4. Elle croit pas les filles, mais plutôt les chiffres. Rentrer des grosses sommes, c'est mon objectif. Perdu trop de temps à parler aux gens, j'suis pas un plaintif. Nickel game, c'est mon objectif. Mentalité napolitano, tu vas devenir paro.
Le trio 13K14, trop dangereux, c'est trois héroïnes qui se vengent. J'étais que d'Aturin vaut que des dingueries. C'est que de manière en face que des conneries. Y'a la police, oh ils toquent à nos portes. Nos vies prennent la vitesse du collège au lycée. Les héroïnes se sont séparées malgré les dingueries. Ainsi toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes. Toujours ensemble, concentré dans ce thème.
Les urines se sont séparées malgré les dingueries, ainsi toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes, toujours ensemble, concentré dans scène.
Les urines se sont séparées malgré les dingueries, ainsi toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes, toujours ensemble, concentré dans scène.
Les urines se sont séparées malgré les dingueries, ainsi toujours pardonné.
Alors, nous tenons à remercier pour nous, son soutien à la NCT, son soutien à cet atelier. Donc, encore merci. Et je laisse la parole à ma chère amie Leïla.
Alors, pour cette dernière partie des communiqués, deux informations. Donc, ce soir, à 19h, à la Transit Librairie, qui se situe 51 boulevard de la Libération, dans le premier arrondissement, il y aura la présentation du livre « La race sur le divan » avec Tammy Ayouch, en collaboration avec Approche Culture et Territoire. La question de la race fait aujourd'hui l'objet de polémiques virulentes. Si le racisme s'exprime de la manière décomplexée, on s'oppose également à l'antiracisme, aux études intersectionnelles, post- et décoloniales. Et l'on discrédite en permanence l'expérience des personnes racisées. Or, la race n'existe pas. Elle n'en définit pas moins les relations entre groupes et entre sujets. Deuxième information, débute demain soir la 9e édition du printemps du film engagé. Donc cette opération sera à la fois sur Marseille et sur Vitrolles et diffusera entre le 28 mars et le vendredi 4 avril sur le thème « Démocratie, sursaut ou sursis », une semaine de films documentaires et de fiction précédée d'un court-métrage et suivie d'un débat. Dans ce type de cadre, le film biopic sur France Fanon sera diffusé demain vendredi 28 mars à 19h30 au Gypsis, suivi d'un débat. Les échos prennent fin maintenant et nous réitérons nos plus vifs remerciements pour nos invités, mesdames Maran Fouquet et Chinard, sans oublier Nicolas Dupuis de l'Homme de l'Espace Culturel Busserine. Et nous remercions les services de la politique de la ville pour leur soutien aux échos, ouais, parce que sans leur concours, nous ne serions plus là. Nous nous quittons avec un dernier morceau, celui de Bernard Lavillier, Noir et Blanc.
Ouais.
Oui.
Donc,
Alors, si le morceau ne fonctionne pas. Oui, le morceau fonctionne. Allez.
Génial.
Allez, on se retrouve le mois prochain. Merci. Radio Galère.
que je chantais. Y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée. C'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
On a babo cagnoso, penabi colognoso.
Il vivait avec des mots. On passait sous le manteau. Qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision. Comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Parfois à des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.